Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour prendre soin de vous, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons vous révéler certains des secrets de la consultation de gynécologie. Un passage obligé dans l'idéal une fois par an pour les femmes, mais malheureusement on y va, soyons honnêtes, un peu à reculons en général. Alors pour y aller, le cœur plus léger la prochaine fois, sans appréhension, nous avons invité pour vous Juju la Gigi, c'est un pseudo. Elle est gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années et elle va nous décrypter dans la bonne humeur toutes ces questions que les femmes lui posent tous les jours. On va apprendre plein de choses sur l'intimité des femmes aujourd'hui et vous verrez messieurs, ça devrait vous intéresser aussi. Ensuite, à la veille de l'opération Sidaction qui débute demain, Benjamin Lévesque viendra nous parler du traitement préventif du VIH. Encore plus efficace qu'on ne le pensait. Et puis quid d'un vaccin contre ce virus où on est la recherche? Il nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira pourquoi en amour, dans la sexualité, finalement comme dans la vie, on désire parfois ce qu'on n'a pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Sylvie qui nous a appelé de Pontoise. Écoutons-la.
Un enfant atteint du Covid a été absent pendant 3 semaines. Il a repris l'école ce matin. Il est toujours positif. Questionné, l'inspection académique a répondu qu'il fallait impérativement l'accepter en classe. Est-ce que cet enfant est contagieux? Est-ce que quelqu'un, notamment les adultes, enseignants, animateurs, ADFEM, agents de cantine, risque quelque chose?
Alors Jimmy, un enfant toujours positif, 3 semaines après, qui revient en classe, c'est vraiment possible?
Bah oui, puisqu'elle me le dit, donc pourquoi ne pas la croire? Certains enfants, même certains adultes, vont excréter du virus pendant une longue période et si on s'amuse à faire des PCR, eh bien on se rend compte qu'elles peuvent rester positives très longtemps, parfois c'est quelques jours, quelques semaines ou de nombreux mois. Et certains Français ont pu être coincés à l'étranger puisqu'à chaque fois qu'on faisait un test, il était positif. Pour autant, ils ne sont pas toujours contagieux.
Voilà. Est-ce qu'on est certain du coup qu'on n'est plus contagieux? Parce qu'elle parle de tous les adultes et des autres enfants qui l'entourent. Finalement, cet enfant, il risque vraiment rien?
Alors, ça va dépendre du variant. Si c'est le variant anglais ou le coronavirus classique, il n'y a pas lieu de faire de PCR de contrôle.
Pour le retour, c'est ça?
Pour le retour en collectivité. Après 10 jours, on peut retourner à l'école et il faut avoir 48 heures sans fièvre. À ce moment-là, on sait qu'on n'est plus contagieux. En revanche, pour le variant sud-africain, Africains et brésiliens, on doit faire une PCR de contrôle et tant qu'elle est positive, vous devez être à l'isolement. Alors, j'ose espérer que si cet enfant est retourné à l'école, il n'a pas le variant sud-africain ou brésilien, parce que là, ça serait problématique.
Très bien. De toute façon, s'il y avait le moindre doute, cet enfant comme les autres, donc continue. Enfin, cet enfant, il doit continuer à avoir les gestes, à suivre les gestes barrières, notamment à porter le masque. C'est une évidence.
Alors, c'est vrai que c'est un peu provocateur ce que je vais vous dire, mais c'est vrai qu'un enfant qui serait positif mais qui porte un masque, bah, finalement, le risque est assez limité. Par contre, ça va se poser problème quand on va retirer le masque à la cantine, lorsqu'on va pas faire attention. Donc, mine de rien, les gestes barrières sont utiles pour tous et tout le temps. Et c'est vrai que les trous dans la raquette, bah c'est le moment où on retire le masque. C'est comme ça qu'on tombe malade.
Alors on peut comprendre néanmoins l'inquiétude des enseignants qui sont face aux enfants, parfois même dans les toutes petites sections en maternelle avec des enfants qui sont non masqués. Ils sont inquiets. Ces gens-là, il va peut-être falloir les vacciner à un moment donné. C'est prévu d'ailleurs.
C'est prévu en avril, mais bon, quand je vous rappelle qu'il faut 2 injections et qu'on est protégé 4 à 5 semaines après la première injection.
Le prévoir avant.
C'est-à-dire que des profs vaccinés mi-avril seront protégés pas avant mi-mai, voire juin si on a un peu de retard. Donc la vague, elle est en ce moment et donc j'ai peur que ce soit un peu trop tard.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. À présent, on va prendre une deuxième question pour vous. Alors encore sur un sujet Covid, on en reçoit beaucoup en ce moment et on tente de répondre à tout le monde bien sûr au fur et à mesure. On va prendre donc la question de Charlie.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai entendu parler de l'hypoxie heureuse dans le cadre du Covid. Il s'agirait apparemment de personnes qui manquent d'oxygène chez eux sans forcément présenter de symptômes et dont l'état de santé s'aggrave assez rapidement. Comment savoir concrètement qu'on a un Covid et que nous sommes concernés par un manque d'oxygène? Merci pour votre réponse, bonne journée.
Alors Jimmy, l'hypoxie heureuse, il l'a bien décrite, c'est ça
ou... Oui exactement, alors c'est très perturbant. J'ai vu un monsieur la semaine dernière, 55 ans, obèse et diabétique. Il avait le Covid depuis 4-5 jours. Et puis le motif c'est que je suis un peu fatigué. Bon, quand je le regarde, il respire un peu vite, mais il a pas l'air si mal que ça. On parle, on tient une conversation, mais il me dit je suis un peu fatigué, je tousse plus que d'habitude. Et lorsque je prends sa saturation avec un petit oxymètre au bout du doigt, eh bien on se rend compte qu'il a 70% de saturation.
Oh là là, alors que normalement, très, très peu,
on est au-dessus de 95%. Donc il avait une saturation extrêmement basse en temps normal avec ses saturations. Il est en grande détresse, il ne peut pas tenir la parole, il ne peut pas parler. Alors que là, il semblait quasiment comme moi, c'est-à-dire bien. Sauf qu'on sait que c'est des malades qui vont se dégrader très très rapidement en quelques heures. Eh bien, ils vont avoir passé de l'oxygène un masque à plus haut débit, voire aller en réanimation.
Et comment on peut savoir, alors, parce que c'est sa seconde question, si on manque d'oxygène, puisqu'il y a cette période un peu trouble d'hypoxie heureuse, chez soi, il faut avoir un oxymètre, c'est conseillé ?
Alors, moi, je vous le conseille uniquement si vous êtes à risque de forme grave du coronavirus. Là, en l'occurrence, il était obèse, il avait 55 ans, du diabète. Il ne faut pas vous amuser à acheter un oxymètre dès que vous avez de la température, c'est anxiogène, parce que les oxymètres prescrits que vous avez récupérés à la pharmacie ne sont pas de très bonne qualité. Vous allez avoir une saturation qui va être un peu aberrante, vous allez être obsédé par cet oxymètre du matin au soir et le regarder.
Puis il faut savoir bien l'utiliser aussi.
Exactement,
c'est ça.
Ce que je vous recommande, c'est chez les personnes fragiles, c'est un petit investissement. Et on sait que les personnes qui vont se dégrader sont celles qui vont avoir de la fièvre en permanence. Si vous n'avez pas de fièvre, ça ne sert à rien de contrôler votre oxymètre. Vous allez juste vous angoisser. Et au moindre doute, eh ben vous appelez le docteur, vous faites une téléconsultation, vous appelez le 15, vous demandez un avis médical.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Juju la Gigi. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Alors je précise tout de suite qu'évidemment Juju la Gigi, c'est un pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années. Votre pseudo sur Instagram, c'est donc Juju la Gigi. Juju la Gigi, je vais y arriver. Jimmy, vous arrivez à le dire, vous ?
Juju la Gigi. Ouais, j'ai fait des cours d'orthophoniste et je m'en sors très bien.
Ouais, vous n'avez pas de bonne
adresse.
C'est
pour ça que je fais de la radio, je crois.
Ouais, c'est ça. Alors vous avez près de 52 000 abonnés. Donc le pseudo c'est Juju la Gigi et sous ce nom vous venez également de publier le guide gynéco joyeux et décomplexé donc aux éditions First et donc avec vous, vous adorez votre métier, hein. Les femmes vous en voyez toute la journée, mais s'il y a une constante dans votre métier, vous le dites dans le bouquin, c'est que les femmes, elles, quel que soit le motif de la consultation, elles ont rarement envie de venir vous voir, pourtant vous avez l'air sympa comme ça.
Hein. Oui, alors mais bon elles l'expriment, hein. C'est vrai que souvent les patientes elles arrivent en disant « Ah vous savez docteur, j'aime pas trop l'examen gynéco, je suis venue mais c'est parce que je suis obligée, bon c'est... » Voilà, moi je trouve que c'est toujours moins pire d'aller chez le gynéco que chez le dentiste, donc je me rassure comme ça. Un jour j'ai dit ça à une patiente qui était dentiste, elle a fait un peu...
On peut la comprendre. J'ai la chance d'avoir une femme qui est sage-femme, et elle me dit que malheureusement les femmes connaissent mal leur corps et mal leur anatomie. C'est quelque chose que vous avez constaté aussi ?
Oui, c'est vraiment fou en fait, et j'imaginais pas ça, et puis au fur et à mesure... qu'on parle avec les gens quand ils se sentent à l'aise, en fait, des fois, ils posent des questions et là, on se dit, mais en fait, elle ne connaît pas son corps. Genre, j'expliquais un truc à une dame, j'ai capté au bout de 10 minutes d'explication qu'en fait, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, ovaire. Elle ne connaissait pas cet organe.
Ah ouais.
Donc, j'ai dû repartir bien en arrière sur mes explications. Ça, et puis la taille du vagin, c'est pareil, c'est aussi un grand mystère pour les gens. Ou alors l'existence tout simplement du clitoris, mais bon, je ne veux pas aborder
tous les sujets. On va y arriver au clitoris, on y viendra bien sûr. Alors pour preuve, vous expliquez notamment dans votre bouquin que tout le monde s'est dessiné un zizi, mais alors une foufoune, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que c'est un bon moyen de comprendre les choses, c'est vrai. Même les femmes, si vous leur dites « dessinez-moi une vulve », incapable, vous leur conseillez d'ailleurs d'aller le voir au moins une fois avec un miroir. C'est un bon conseil.
Oui, je pense que on voit l'ensemble de notre corps facilement dans une glace. Alors pourquoi pas regarder ce qu'on a entre les jambes pour les personnes qui possèdent un pénis, en général, ils se sont vite rendus compte qu'ils en avaient un et comment s'en servir.
On le voit donc, plus facilement, donc c'est
pourquoi
plus simple.
Pas nous, ouais. Après tout, et je pense qu'effectivement, le fait de ne pas regarder sa vulve dans un miroir, ça participe aussi au tabou autour du sexe féminin. C'est dommage. C'est quand même très très simple d'aller se regarder dans un miroir.
C'est pas facile à dessiner, moi, je trouve. Il y a plein de dessins super bien faits dans votre bouquin, mais je trouve pas ça si simple quand même.
Bah, du coup, on va reprendre par la base. On va parler de vulve. C'est quoi une vulve et à quoi ça sert ?
La vulve, c'est l'ensemble des organes génitaux extérieurs.
C'est la totale
des
dehors,
personnes,
c'est ça.
Qui ont une vulve.
La totale
voilà.
Dehors.
La totale dehors.
Non, je ne dis pas qu'il y a dedans ça, le vagin, mais... l'utérus, tout ça, mais voilà, dehors, c'est la vulve.
La
quoi.
Vulve, c'est ça.
D'accord. Et c'est quoi son job à la vulve alors ?
Eh ben, elle a pour principale fonction de protéger en fait l'entrée du vagin, de maintenir le microbiote, c'est-à-dire les bonnes bactéries à l'intérieur. Et puis la vulve, elle est couverte de peau, donc c'est un organe sensoriel et donc potentiellement de plaisir aussi, bien sûr.
Alors si on continue le cours d'anatomie, on a les lèvres, les petites lèvres, les grandes lèvres. Et je crois que vous n'aimez pas trop qu'on les appelle comme ça d'ailleurs.
Oui, ça m'agace, j'avoue. Alors après, ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'appeler les petites lèvres, qui sont donc les lèvres internes et qui ne sont pas couvertes de poils, et les grandes lèvres, qui sont les lèvres externes et qui, elles, ont des poils, utiliser ces mots petites et grandes, ça fait qu'en fait, on va se coller des complexes toutes seules, là où ça n'a pas lieu d'être. Parce que la plupart des femmes vont se dire, enfin, en tout cas, celles qui ont des petites lèvres qui dépassent des grandes, vont se dire, mais c'est quoi cette histoire ?
C'est celle-là les grandes,
elles sont
celle-là
petites,
les petites,
elles sont grandes, qu'est-ce qui est où ? Est-ce que je suis normale ? Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les consultations. Et honnêtement, toutes les vulves sont différentes de la même façon qu'on a toutes.
Vous savez qu'on va vous parler. Hein. Il y en a des petites, des grandes,
j'en vois
des
toute
poilues,
la journée. Je peux vous dire, il y en a
couleurs,
pas deux qui se ressemblent. Ça. De la même façon qu'il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, mais on aura tous un nez, deux yeux, et pour autant, notre visage ne sera pas le même que celui du voisin. Bah, pour votre vulve, c'est pareil, exactement pareil. Donc, si on parlait de lèvres internes et externes, je pense que ça éviterait déjà un certain nombre de personnes de s'interroger sur leur anatomie.
Alors, une autre façon de parler qui contribue, vous dites, à rendre le sexe féminin tabou, c'est quand on dit d'une fille qu'elle a rien entre les jambes ou d'une fille qu'elle a pas de zizi, comme si elle était un sous-garçon finalement. Ça, vous dites aussi stop, hein, on arrête, il faut pas faire comme ça.
Oui, j'ai fait un dessin là-dessus dans le livre parce que effectivement, les filles, elles ont pas rien entre les jambes, elles ont une vulve, elles ont un sexe. Et puis nommer les choses, ça leur permet d'exister, tout simplement.
Alors un organe à part entière, c'est le clitoris, l'organe du plaisir. Mais finalement, vous dites que même les femmes ne le connaissent mal, en tout cas certaines.
Oui, je crois que je vous avais fait rire.
Il y a une
rire.
Situation assez cocasse dans votre bouquin, un dessin assez rigolo. Oui. D'une dame, je précise le dessin, qui arrive en vous disant « Docteur, j'ai un bouton à cet endroit-là, et en plus quand je touche, ça fait bizarre. »
Et en fait, elle venait de découvrir son clitoris. C'était une patiente qui avait pourtant déjà accouché, eu des enfants, qui avait un certain âge, mais voilà, qui découvrait son anatomie. Donc bon, le clitoris, il a le vent en poupe en ce moment, on en parle beaucoup. Il s'affiche sur les murs, et heureusement, et c'est très bien.
Mais on le connaît
mais
toujours
finalement,
pas si bien,
il y a encore beaucoup de personnes qui connaissent pas et qui savent pas que c'est un organe dédié au plaisir, c'est dommage.
Et qui est pas si petit que ça aussi.
Et non, pas si petit que ça, parce que la partie extérieure, celle qu'on dessine plus facilement, elle est toute petite par rapport à la partie interne.
C'est comme un iceberg en fait,
exactement. La partie qu'on voit à l'extérieur à l'union des lèvres internes, c'est la partie émergée en quelque sorte de l'iceberg, et on va ensuite avoir les bulbes qui enserrent le vagin et les piliers qui sont collés à l'os derrière.
Tout ça, c'est une bonne dizaine de centimètres, non, c'est
voilà.
Ça Donc c'est
voilà.
Presque aussi long qu'un pénis,
mais
en fait.
Exactement.
Hein. Allez, Juju, la Gigi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, Juju la Gigi, c'est votre pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous venez de publier le guide gynéco joyeux et décomplexé aux éditions First. Alors, on le disait juste avant, c'est fou, mais beaucoup de femmes connaissent finalement très mal leur anatomie. Un grand inconnu, par exemple, c'est l'hymen. On sait grosso modo qu'il se passe un truc de ce côté-là la première fois qu'on a un rapport sexuel, mais il est où précisément cet hymen?
Alors,
et c'est
fait,
quoi?
Oui, en fait, l'hymen, c'est un espèce de repli de chair à l'entrée du vagin. Et il ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. On devrait s'en fiche, en fait, je pense, de l'hymen, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça, dans la tradition de la virginité, etc. Mais en fait, hymen, pas hymen, être vierge, c'est bien au-delà de ça. Et ne pas être vierge, c'est avoir une sexualité, s'amuser. Enfin, je veux dire,
on n'a pas toutes le même,
quoi.
En plus. Hein, y en a des plus ou moins fermés.
Tout à fait. Il peut être... Alors, à moins qu'il y ait une pathologie, parfois, on peut avoir un hymen clos et donc les règles ne vont pas pouvoir s'écouler. Et là, il va falloir une intervention chirurgicale pour ouvrir l'hymen, pour que les règles puissent s'écouler. Parfois, il peut être un peu... criblé ou cloisonné, et ça c'est aussi quelque chose qui peut gêner pour la pénétration, que ce soit par un pénis ou par un tampon. Mais sinon l'hymen, il fait sa vie, quoi, hein. C'est un petit repli, il peut parfois saigner lors de la première pénétration,
mais même pas forcément, hein.
Mais même pas forcément, il peut être très souple et déranger personne. Enfin, je crois que...
On laisse tranquille, on a compris.
On va laisser tranquille, ouais.
Alors, on va parler un peu d'anatomie. Vous avez parlé tout à l'heure du vagin, et c'est vrai qu'on a l'impression que le vagin, c'est une cavité hyper profonde qui va très très loin. Quelques mystères autour du vagin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire réellement sur le vagin?
Le vagin, c'est pas le sac de Mary Poppins, hein, c'est pas un puits sans fond. Le vagin, il a une finitude, c'est une sorte de cylindre, en fait, tapissé de muqueuse, entouré de muscles, et qui va de l'entrée de la vulve, en fait, jusqu'à l'utérus. Il fait quoi au repos? 6-7 cm, mais il est extrêmement extensible, et donc il peut un petit peu... s'allonger en quelque sorte.
C'est ça, un petit peu, ça se détend plus ou moins.
Mais on peut en atteindre le fond, parce que j'ai souvent des patients qui me disent « Quoi, mais vous voulez que je mette un ovule? Mais je ne pourrais jamais aller jusqu'au fond de mon vagin. » Et donc
si
on les rassure,
pouvez.
Si vous pouvez atteindre le fond de votre vagin, ça va bien se passer.
Très bien. On va passer à la consultation de gynéco. Bien souvent, les femmes, elles y vont en reculant, on l'a déjà dit, particulièrement la première fois. Je pense qu'on s'en rappelle tout honnêtement de la première fois chez le gynécologue. Moi, j'étais terrorisée, j'avais 16 ans, je me souviendrai toujours de voir ce grand bonhomme qui ouvre la porte. Maman, pourquoi tu m'as amenée là? C'était horrible, franchement. Mais c'est quand justement le bon moment pour une jeune femme pour consulter le Gigi la première fois?
Je pense qu'il y a différentes situations. Soit il y a une réelle demande ou des symptômes, et là, il faut y aller. pour savoir ce qui se passe et répondre aux questions, éventuellement avoir une prise en charge. Soit on en ressent le besoin, on a envie de discuter, éventuellement discuter sexualité, contraception, et là c'est aussi une bonne raison. Après, il n'y a pas d'âge...
On ne dit pas à 16 ans, c'est obligatoire.
Non, voilà, à 16 ans, c'est surtout pas obligatoire d'aller chez le gynécologue, et puis c'est pas du tout obligatoire que le gynéco ou la sage-femme ou le médecin généraliste formé à la gynécologie qui vous reçoit, il n'y a pas que les gynécologues qui peuvent s'occuper de la santé des femmes, il ne va pas forcément vous examiner à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer les personnes qui vont aller pour la première fois en consultation.
Vous avez même le dire à certains gynécos, ça, quand même, aussi, parce que je trouve que l'examen... interne la première fois, il y en a encore qui le pratiquent, alors qu'il n'est pas forcément nécessaire.
Moi, en général, quand je reçois une jeune fille la première fois, je la rassure, je lui dis qu'à moins qu'elle ait une demande, un besoin, je ne l'examinerai pas à l'intérieur. Mais que si elle veut, on peut regarder dans un miroir et vérifier son anatomie ensemble. Et voilà. Donc, en général, ça permet de faire une première consultation.
J'aurais bien aimé que ce soit vous la première fois, j'aurais été plus à l'aise.
Bah, je suis désolée.
On a à peu près le même âge, je pense, donc ça aurait été compliqué.
On va parler un peu de toucher vaginal, parce que malgré tout, de temps en temps, vous êtes obligé, enfin, vous devez le faire. Alors, comment ça se passe, justement, techniquement, cet acte?
Eh bien, on utilise deux doigts d'une des deux mains pour qu'on met dans le vagin pour sentir les organes, et avec l'autre main qu'on pose sur le ventre, ça va nous permettre de bien sentir.
Je me demandais pourquoi ils mettaient la main sur le ventre parfois.
Parce qu'en fait, si on met que les deux doigts dans le vagin, on va sentir le col, mais on va pas sentir ce qui se passe autour.
Donc avec l'autre main.
Et avec l'autre main, la main abdominale, ça nous permet de bien sentir les contours de l'utérus.
Descendez un peu les organes en fait, c'est ça.
Si l'utérus est un peu augmenté de volume, ou s'il y a un kyste sur un ovaire, quelque chose comme ça, on va le sentir avec la deuxième main entre les deux mains.
Une dernière petite question existentielle, je suis sûre que ça va rassurer beaucoup de femmes. Est-ce qu'il faut s'épiler pour venir chez vous? On a toujours un peu honte. Je suis gynéco, je suis pas épilée. Je crois que vous en avez vu de toutes les couleurs, là aussi, de toutes les tailles.
Allez, il y a un tiers des patientes tous les jours qui me disent « Désolée docteur, je suis pas épilée ».
Tous les jours, tous les jours.
Et donc il y a un tiers des patientes à qui je réponds « Moi non plus ».
Je me mets à l'aise.
On est contente de le savoir.
J'adorerais que mon gynéco me réponde ça. Franchement, ça met tout de suite à l'aise.
Ça détend l'atmosphère. Non, les poils, on s'en fout.
Pour l'examen, il y a aucun problème à avoir des poils.
Ça ne pose pas de problème. Épilez-vous pour votre plaisir si vous le souhaitez, mais pas pour les gynécos.
C'est pas la peine. Franchement, c'est très rassurant. Merci Juju. Gigi, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Retour dans Sans Rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Juju la Gigi. Je rappelle que, donc, une nouvelle fois, c'est votre pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années. Alors, beaucoup de femmes se reconnaîtront, je suis sûre, dans ce que je vais dire. Vous, les gynécos, vous avez des instruments pour nous examiner, notamment le fameux spéculum. Mais même si on l'a presque toutes eu une fois en nous, ce truc-là, en fait, on ne sait pas tellement à quoi il vous sert. Vous allez regarder quoi, en fait, concrètement?
Le spéculum, c'est donc ce petit objet qu'on introduit dans le vagin.
Petit objet, vous êtes gentil, c'est un gynéco qui dit ça, parce que moi je le vois sortir à chaque fois ce truc, c'est
pas
petit. J'ai
plein de tailles différentes que je peux adapter à la sensibilité des femmes, enfin bon bref. Et notamment j'en ai des tout petits, des spéculums dits de vierge, pas plus gros qu'un doigt, qui permettent vraiment de... Mais on a un peu dévié la question initiale,
c'était il sert à quoi
le spéculum.
C'est ça.
Et donc c'est un objet qui permet, quand on l'écarte, de voir à l'intérieur du vagin et notamment de voir le col de l'utérus. Ça nous permet, nous, d'observer s'il y a des pertes particulières, l'aspect du col, et puis aussi de réaliser certains prélèvements, par exemple, comme le fameux frottis, des prélèvements vaginaux à visée bactériologique. Et puis quand on a besoin de poser, par exemple, un dispositif intra-utérin, eh ben, il faut bien qu'on puisse voir et écarter les parois du vagin. Donc ça nous sert à tout ça.
Alors justement, vous avez dit que ça sert à faire un frottis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Parce qu'on connaît tous ce mot, ce nom de terme.
Même nous, on l'a tout
mémoire,
eu, mais...
Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Je pense qu'il y a hiatus.
En fait, le frottis sert au dépistage du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est lié aux HPV. C'est une famille de virus, c'est une grande famille de virus, puisque c'est aussi eux qui sont responsables des verrues plantaires, par exemple. Mais pour certains, on les appelle les HPV oncogènes, ils vont donner des cancers. Et donc, au niveau du col de l'utérus particulièrement, il peut y avoir un cancer lié à ces virus. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que c'est un cancer qui se développe très lentement et qu'on peut dépister à des stades précoces et donc soigner. Donc le frottis, il va consister, avec un petit instrument, à récupérer des cellules au niveau du col pour les analyser et savoir si tout est normal ou on est dans un pré-cancer, voire dans un cancer installé. Et puis il y a aussi un autre test qui est maintenant recommandé, je vais vous expliquer ça juste après, qui s'appelle le test HPV. Donc on recherche en fait finalement directement les virus responsables du cancer du col. L'examen est le même. Le prélèvement est le même, mais soit on l'envoie en cytologie, c'est-à-dire on analyse les cellules, soit on l'envoie pour récupérer un virus.
D'accord. Et alors, justement, là aussi, c'est important, on va être clair une fois pour toutes, un frottis, bien que c'est évidemment un geste très important, on l'a compris, mais normalement, ça ne devrait pas se faire à 25 ans, parce qu'il y en a justement des fois, dès le premier rendez-vous, allez hop, jackpot, c'est votre anniversaire, hop, on fait le premier frottis à 16 ans. Non, ce n'est pas nécessaire forcément.
Non, ce n'est pas nécessaire. Après, les choses et la médecine, elle évolue. C'est-à-dire qu'à un moment, on pensait qu'il fallait le faire tôt, très rapidement après les premiers rapports sexuels pour dépister. Et puis, on s'est rendu compte qu'on surdiagnostiquait des soucis, alors qu'en fait, l'HPV, la plupart des femmes vont le rencontrer, hein, quasiment 50 à 70% vont rencontrer l'HPV.
Mais on va l'éliminer naturellement.
Mais on va l'éliminer naturellement. Et on s'est rendu compte qu'en faisant des frottis trop tôt, on induisait de l'angoisse, des examens.
Donc 25 ans pour le premier, c'est bien.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est 25 ans pour le premier frottis. On le renouvelle un an plus tard à 26 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Et à partir de 30 ans, et ça c'est depuis 2019, les nouvelles recommandations, tous les 5 ans, on cherche l'HPV jusqu'à 65 ans.
D'accord, c'est très clair au moins.
On a parlé de la vulve, du vagin, du clitoris, du frottis, mais on oublie qu'il y a aussi les seins et vous occupez aussi justement de cette partie de l'anatomie. Seins qu'il faut aussi palper régulièrement par le gynécologue, tous les combien de temps ?
Par le gynécologue ou par n'importe quelle personne formée à la santé de la femme, donc y compris les sages-femmes, je trouve que c'est important de le rappeler.
C'est pas Jimmy qui va vous dire le contraire.
Hein.
Oui. Régulièrement.
Parce que
donc
sa femme est gynécologue. Et sage-femme, je précise, pour ceux qui n'auraient pas entendu au départ.
Mais... Ah oui, c'est vrai que ça fait très bizarre.
Oui, oui, c'était bien que je précise.
Ah oui, merci, merci, Mélanie.
Donc, du coup, oui, c'est important de palper les seins avec votre soignant et aussi en autopalpation, parce que parfois, ça permet de dépister des cancers du sein et de les prendre en charge plus rapidement et donc avec un meilleur pronostic, bien sûr.
Parfois en consultation, donc on a parlé de l'anatomie intime, on a parlé des seins. Parfois en consultation, vous abordez aussi la question du poids avec les femmes. Ça fait aussi partie de votre job. Expliquez-nous pourquoi c'est important. Et il y en a peut-être parfois qui le prennent un peu mal, mais ça fait partie de votre travail.
C'est toujours un sujet un petit peu qui peut être sensible. Mais je pense qu'on devrait, les gynécologues et les soignants en général, aborder les gens dans leur globalité. Le poids, notamment le surpoids ou l'obésité, sont des facteurs de risque importants d'autres pathologies.
Et gynécologiques aussi, hein, d'ailleurs.
Voilà, des pathologies générales comme l'hypertension ou le diabète. Mais aussi, sur le plan gynéco, par exemple, ça majore le risque de cancer du sein. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas trop. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir en discuter lors des consultations.
Donc, vous nous posez pas parce que vous êtes obsédé par la balance.
Non,
hein,
pas du tout obsédé par la balance.
Alors, la vie d'une femme est aussi rythmée au cours de sa vie, justement, par les règles. Règles qui sont presque un tabou. Mais est-ce qu'on vous en parle en consultation ? Ou est-ce qu'on vous le dit à demi-mot ? Est-ce qu'on emploie des termes, des ragnagna ? Ou est-ce que, parce que c'est vrai que c'est un peu agaçant, ça.
Non, je pense que les gens... Enfin, j'ai jamais entendu personne me dire ragnagna en consultation. Et heureusement, je crois que j'aurais fait une drôle de tête. Mais on en parle de plus en plus quand même, avec tous ces sujets autour de l'endométriose qui sont plus en plus dans la presse.
On va même au travail, en le cachant dans sa poche.
Voilà,
moi, sérieusement, je
ne
la porte pas dans la main comme ça, parce que ça reste un truc qui est tabou. Hein.
C'est vrai.
Pourtant,
c'est vrai.
On les a toutes.
Mais en consultation gynéco, quand même, les femmes, elles viennent pour nous parler de ça. Et puis, de plus en plus, elles arrivent en disant bonjour, j'ai des règles douloureuses et je viens pour parler de ça. Peut-être
même,
qu'elle ne l'aurait pas
bien
fait il y a quelques années. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve que c'est assez fluide.
Il y a quand même un petit sujet là-dessus, justement, qui concerne les règles et plutôt les protections périodiques que vous abordez dans votre bouquin. Vous mettez quand même les femmes un peu en garde. Vous leur dites, restez vigilantes sur les produits que vous utilisez. Et quel conseil vous donnez de ce côté-là ?
C'est très difficile. Hein. Moi, je ne ferai pas la pub pour une marque ou une autre.
Non,
c'est pas du tout
ça,
mon
ouais.
propos. Mais effectivement, on s'est rendu compte. Et encore une fois, c'est dommage parce que ça a été poussé par des associations de consommateurs, par des personnes sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça devrait être un sujet des autorités de santé ou des soignants.
Ces produits qui sont en contact avec nos muqueuses qu'on met à l'intérieur du corps tous les mois.
Et qui contiennent des choses toxiques. Enfin, il y a eu des enquêtes où on voyait des résidus de pesticides. On ne sait pas du tout si ça peut se comporter comme des perturbateurs endocriniens, avoir des conséquences sur notre santé. C'est quand même vraiment dommage que on ne prenne pas ce sujet un peu plus.
Les femmes s'en inquiètent, en tout cas, elles soient vigilantes. Quoi.
Bah oui.
Oui, parce que ces serviettes hygiéniques sont majoritairement composées de plastique. Plastique
oui.
qui va être au contact de la muqueuse, ça va forcément remonter. Donc, du coup, quel conseil simple vous pouvez donner ? Est-ce qu'on prend plutôt des serviettes hygiéniques, des tampons,
lavables,
des cuffs ?
Des choses lavables, effectivement.
Il existe aussi des espèces de.
Oui, il y a
des couches,
nouvelles
mais
choses.
Des culottes
sortent.
De menstruation.
Merci, Jimmy. Ça nous donne vachement envie d'essayer.
J'en ai une dans mon sac, vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble ?
Non, mais des culottes de menstruation, justement.
Des culottes menstruelles, oui, ça a le vent en poupe, notamment parce que ça se présente comme étant plus écolo. Après, l'impact écologique de ces nouvelles protections, on ne sait pas vraiment lequel il est, mais
pour la santé, ça paraît quand même
plus sûr. Pour l'écologie du vagin, ça m'a l'air plus sûr quand même que le tampon, non ? Enfin, je me
trompe peut-être. Ça semble quand même vraiment intéressant.
Bon, merci beaucoup, Juju la Gigi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, ceux ou celles, hein, parce que on s'adresse à tout le monde, hein, on est d'accord ?
À tout le monde.
Ça, c'était pas une émission féminine, hein ?
Non.
Bon, très bien. Je rappelle votre livre, Le Guide gynéco, joyeux et décomplexé. Il est paru chez First Edition. Merci encore. Europe 1.
Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien à la veille du SIDAction. On va parler cet après-midi de la PrEP, ce traitement qui empêche une contamination par le VIH. Mais juste avant, on a eu envie de tester vos connaissances sur le sujet. Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger. On écoute son micro-trottoir.
Le VIH, c'est le virus, et le sida, c'est une phase du VIH.
C'est des maladies sexuellement transmissibles.
Qui est mortelle, on n'a pas encore de remède par rapport à ça, et c'est très dangereux.
Non, je crois pas, je crois qu'il y a des moyens de le ralentir pour pouvoir essayer de vivre une vie normale.
En tout cas, il y a des traitements qui sont mis en place, qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant, donc c'est déjà ça. Et je crois qu'il y a quelques patients dans le monde qui ont été guéris, mais je suis pas certaine.
Non, je pense qu'ils se soignent pas une fois que t'as le sida, enfin, je pense que c'est mort pour toi, quoi.
Selon moi, il existe des vaccins, ouais, mais je sais plus le nom. Attends, je crois que je l'ai.
Je crois pas, tu me fais douter là, non?
Ah mais non, la PrEP, c'est pas un vaccin, je dis n'importe quoi.
Ah non, moi ça me fait penser à prépa, ça n'a absolument rien à voir, je connais pas du tout.
Ça remplace les moyens de contraception.
Je pense que c'est pas mal, surtout pour ceux qui veulent avoir des relations sexuelles non protégées. Donc oui, ça peut être une bonne chose en effet.
Bon, c'est intelligent, mais je pense qu'il faut aussi trouver quelque chose pour les personnes qui sont déjà atteintes de la VIH.
Benjamin, un petit rappel, c'est quoi la PrEP ? Rien à voir avec la contraception, hein,
rien
ça, c'est
à
clair.
Voir. C'est un médicament que l'on prend pour éviter d'être contaminé par le VIH. C'est un traitement qui est disponible en France depuis 2016 et qui peut se prendre de deux façons différentes. Soit en continu, donc c'est une gélule tous les jours à la même heure, soit dit à la demande. Pour faire simple, c'est deux comprimés avant un rapport sexuel à risque, puis deux comprimés après.
Alors Benjamin, on savait que la PrEP était un moyen supplémentaire pour se protéger du VIH, mais là on en est sûr, une nouvelle étude prouve que ce traitement est vraiment, vraiment très efficace.
Et oui, c'est l'étude baptisée Prévenir qui a suivi durant 3 ans des personnes très exposées au VIH. Et résultat, sur 3000 participants, seulement 6 ont été contaminés. Et ce n'est absolument pas parce que le médicament n'a pas été efficace, comme l'explique le professeur Jean-Michel Molina, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis.
Il n'y a eu que 6 cas d'infection par le VIH qui ont été observés chez des personnes qui avaient interrompu, souvent depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, la prise des comprimés qui permettent justement d'éviter l'infection par le VIH. C'est comme l'analogie qu'on peut faire, c'est celle de la pilule contraceptive. Si vous ne prenez pas votre pilule contraceptive, vous risquez la grossesse. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la PrEP. Si vous le prenez régulièrement et dans les bonnes conditions, à ce moment-là, vous êtes très bien protégé contre le VIH.
Et pour vous rendre compte de l'efficacité, d'après ce spécialiste, grâce à la PrEP, on aurait évité plus de 300 contaminations sur ce petit groupe de 3000 personnes.
Et est-ce qu'on sait en France combien de Français utilisent ce traitement ?
Eh oui, aujourd'hui, 20 000 personnes utilisent la PrEP en France. Et parmi elles, il y a Antoine, 29 ans. Il prend son comprimé tous les soirs durant les dîners. Et pour lui, la PrEP lui a vraiment permis de stopper ses angoisses.
Il m'arrivait de temps en temps d'avoir des rapports sexuels non protégés. Souvent, c'était retour de soirée ou en soirée. Ou quand on est alcoolisé, on ne réfléchit pas vraiment. On oublie les risques qu'on prend. Et en fait, c'était surtout dans ces moments-là où je me sentais mal, où j'avais un peu un stress. Qui plus est, était assez long puisqu'on devait toujours attendre 6 semaines avant de faire les tests pour s'assurer de ne pas avoir contracté le VIH. Moi, j'ai commencé la PrEP donc en mars 2020, donc il y a pile un an maintenant. Bah, maintenant, je le vis quand même beaucoup mieux. J'ai plus ce stress.
Et j'ajoute que la PrEP ne protège que du VIH et pas des autres MST type chlamydia ou syphilis.
Et quid d'un vaccin ? Où en est la recherche, Benjamin ?
Eh bien, dernièrement, une équipe de scientifiques américains a testé un vaccin qui fonctionne sur le même modèle que ceux que l'on utilise en ce moment contre la Covid-19, c'est-à-dire à ARN messager. Résultat, 97% des participants qui avaient reçu l'injection ont fabriqué des anticorps contre le VIH. Mais il ne faut pas crier victoire, comme le précise le professeur Molina.
Beaucoup de vaccins ont été capables de générer des réponses immunitaires, mais jusqu'à présent, ça n'a pas suffi pour pouvoir obtenir une prévention de l'infection. C'est d'autant que le VIH est un virus qui est beaucoup plus variable, qui mute beaucoup plus fréquemment que le coronavirus, qui est un virus très stable, et avec qui on voit déjà que les variants posent quelques problèmes d'efficacité sur les vaccins. Avec le VIH, on est d'un facteur 1000 en termes de variabilité plus importante.
Alors pour continuer à espérer et aider les chercheurs, vous pouvez faire un don pour le SIDAction, soit par téléphone en appelant le 110 ou par SMS en envoyant le mot « don » au 92 110. On compte sur vous.
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, répondons à la question d'Abdel. Il nous écrit la chose suivante. « Je suis avec ma copine depuis 5 ans et mes amis ont tendance à envier notre situation. Eux qui sont tous célibataires depuis plusieurs années, tandis que moi, je suis jaloux de leur liberté et le fait d'avoir des plans cul différents. » Régulièrement. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, j'ai l'impression qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas en fait. Enfin, c'est un peu comme les cheveux, on les arrête, on les veut bouclés. Enfin bon, je ne sais pas.
Oui, vous avez raison. On est toujours à regarder ce que vivent les autres et on idéalise évidemment ce que vivent les autres. Donc ceux qui sont tout seuls mesurent combien c'est douloureux de ne pas pouvoir se poser tranquillement dans une relation et pouvoir voir qu'on l'a bâtie, qu'on l'a construite, qu'elle évolue, etc. Et qu'on est suffisamment aimé pour qu'on ait mérité d'avoir une relation dans son suivi et dans sa projection. Et ceux qui, évidemment, sont en couple voient toutes les libertés qu'ils se sont empêchées.
C'est pas toutes les personnes en couple, hein. Il y en a qui sont très contents d'être en couple et qui regardent pas ailleurs.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Les voisins, si c'est mieux. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a tous ceux qui diront quelle horreur ce que vit le voisin. C'est voilà, à l'inverse de ça. Ouais. Mais il y a donc un certain nombre de personnes. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez des gens qui sont en couple, un couple qui se sépare, eh bien, tout d'un coup, on peine à inviter celui qui est célibataire. Alors souvent, on n'invite pas trop l'homme parce qu'on se dit, oulala, ça pourrait donner des envies justement de cette jalousie, des envies de liberté, des envies d'ailleurs, des envies d'aventure au mari. Et quand c'est une femme, pareil, elle pourrait vouloir séduire ou elle semble être tellement épanouie dans tous ses possibles que évidemment, elle pourrait tenter le diable. Donc en fait, voilà, c'est toujours la même chose. Ça raconte pas tellement la réalité des faits, mais ça raconte aussi ce que peut-être Abdel vit de son couple, à savoir que dans son couple, il trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la liberté qui est tout d'un coup emprisonné. Et ça n'est pas lié au couple, c'est à sa façon de vivre son couple. Donc on n'est pas plus libre parce qu'on couche avec la terre entière, parce qu'on est libre de coucher avec la terre entière. On est libre tout court avec une personne...
Ou seule, c'est pareil.
Voilà, avec une personne au quotidien, avec peut-être plusieurs personnes au long cours. Mais la question de la liberté est intrinsèque à soi et n'est pas liée à comment on la gère dans le cadre du couple ou des relations sans lendemain.
Malgré tout, en cette période de Covid, j'ai le sentiment que le célibat est plus mal vécu que le fait d'être en couple. Autant quand tout va bien, on se dit « oh là là, j'aimerais bien un peu de liberté », mais là, à l'inverse, quand on prive de nos libertés de déplacement, de faire la fête, eh bien, j'ai quand même l'impression qu'on est bien mieux en couple que seul et que c'est plutôt mal vécu de ne pas avoir quelqu'un qui parfois nous casse les pieds, il faut dire la vérité. Je ne parle pas de ma femme, évidemment. Tout va bien.
Non, bien sûr, ni des enfants, tout ça, c'est bien.
Donc évidemment, que ce n'est pas si rose que ça, mais effectivement, le couple représente, parce qu'ils souffrent aussi, hein, les couples en ce moment, mais représente quand même une sécurité, un lien d'affection, puisqu'on est quand même privé de tous les autres liens d'affection, qu'ils soient amicaux ou familiaux au sens plus large du terme. Et les célibataires, effectivement, manquent furieusement de douceur, de regard, d'amour, d'ambition, de se toucher, de se frôler. Et effectivement, ils sont en ce moment plus particulièrement en difficulté.
Et même de s'occuper, hein, parce que mine de rien, quand on est à deux, c'est plus rigolo de s'ennuyer à deux que tout seul.
Ramasser les chaussettes
si
de l'autre,
mal.
Bien sûr. Voilà. Ranger les assiettes du lave-vaisselle de l'autre. Oui, non, c'est bien, franchement, la vie de couple.
Vous partagez pas tout à fait mon point de vue, Mélanie.
Non, mais en tout cas, ce que ça dit, moi j'ai l'impression, je suis pas du tout psy, hein, évidemment, mais ce que ça dit de lui, c'est qu'Abdel, il y a peut-être un petit souci dans son couple. Si effectivement, être en couple pour lui, c'est un manque de liberté, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir au sein de son couple, non ?
Oui, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'il attire son attention, si son attention est particulièrement attirée par ses copains dont il est jaloux, alors que la réalité est tout autre pour les copains en question, c'est qu'il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans son plaisir, dans sa relation, dans sa sexualité avec sa compagne, et que donc c'est de lui dont cela parle.
Il faut qu'il en parle à sa compagne, peut-être ?
Déjà, il faudrait qu'il identifie ce qui fait qu'il ne se sent pas libre. Si être libre, c'est de pouvoir coucher avec la terre entière, on s'est un peu trompé d'objectif
oui,
en se mettant
problème,
en couple. Ouais. Mais la liberté, elle est bien au-delà de ça. Peut-être qu'il a une compagne...
Peut-être qu'elle ne veut pas qu'il sorte. Enfin,
voilà, qu'il
enfin,
le surveille ou qu'il, s'il se sent tenu en laisse. Oui, il y a une problématique et là, il doit... Ou un devoir de rendre compte de tout. Et auquel cas, à un moment donné, quand on est trop étriqué, quand la cage se referme sur soi, il n'y a qu'une obsession, c'est l'envie de l'évasion. Donc ce serait à réfléchir ce qui est intrinsèque à lui et ce qui est intrinsèque à sa relation pour pouvoir éventuellement réviser un peu le mode de fonctionnement plutôt que de rêver des ailleurs très idéalisés et très peu le reflet d'une réalité vraiment épanouie.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous, enfin sans rendez-vous, mais rendez-vous quand même à 15h demain.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
C'était Sans rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.